Alors d'abord, j'aimerais vous lire un texte dans l'Apocalypse. Ceux qui sont familiers avec le guide de la Ligue pour la lecture de la Bible, vous êtes donc aussi dans l'Apocalypse, mais ce n'est pas du tout dans les lectures actuelles que j'aimerais vous orienter. C'est un texte sur lequel je n'ai jamais entendu de prédication. Puis j'ai voué ma réflexion, puis j'en ai tiré quelque chose. Et puis, Anthony, si tu peux indiquer, voilà. L'essentiel restera, c'est le titre que j'ai donné à ce message, et c'est dans l'Apocalypse 6, les versets 5 et 6. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans la main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Je vois Jean-Daniel qui est déjà tout ragaillardi. Louis, la vendange fut bonne, n'est-ce pas? Oui. On se réjouit. Donc, le vin est sauf. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'huile ici? Personne, non? Ah oui, Sylvie fait de l'huile de noix de coco. On va en entendre parler tout à l'heure. Cette table est tellement belle qu'on a envie d'y mettre les dents. C'est vrai, hein? Alors, Matthieu 24, les versets 6 à 14. Vous entendrez parler de paix et d'accord parfait. Si au moins c'était ça. Si au moins c'était ça. Ça le sera un jour, mais pas encore. Ah, mais c'est sympa. Je pense pas que c'est le Seigneur, hein, qui vous appelle. C'est pas grave. On comprend. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et on vous fera même mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors je souhaite ce matin que ce message soit comme une belle lumière d'espérance pour vous aujourd'hui, mais ce message sera une lumière d'espérance obligatoirement, bien davantage, dans la nuit d'un demain qui, du reste, a déjà commencé pour beaucoup. Alors, avant de définir cette lumière et de la situer, et de définir la nuit dans laquelle elle brille et brillera toujours, j'aimerais attirer votre attention sur une observation passionnante que vous seriez susceptible de faire si vous lisez l'Apocalypse. Qui, soit dit en passant, ne signifie pas terreur absolue à venir, mais le mot Apocalypse signifie révélation. Tout simplement. Et dans cette description qui est très codée, c'est tout en images pour décrypter. Je crois que une foultitude de théologiens se sont cassés les dents sur les interprétations sans arriver à un consensus ni à quelque chose de très précis. Mais dans cette description codée des choses à venir, vous constaterez comme moi qu'il y a un rôle primordial qui est attribué aux anges, le ministère des anges. Ils sont partout dans l'Apocalypse. Alors le mot ange signifie messager. Et ces êtres, créatures de Dieu, on pourrait dire que ce sont des chargés de mission au service du Seigneur. Et ceci en faveur de tous ceux qui doivent hériter du salut selon Hébreux 1,14. Ce sont des serviteurs souvent invisibles et leurs tâches sont absolument variées. Protection, comme pour les trois Hébreux dans la fournaise. Ça, vous avez compris qu'il s'agit de Daniel chapitre 3. Délivrance, comme pour Pierre qui est mené hors de sa prison par l'ange qui ouvre miraculeusement les portes. Avertissement et encouragement, comme pour Paul qui est naufragé. Acte 27. Mais aussi, les anges exécutent le jugement de Dieu. Ce sont les anges qui ont détruit Sodome et Gomorre. Et ce sont eux qui vont décimer l'armée de Sennachérib qui assiégeait Jérusalem. Eh bien, Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, a dû bénéficier du ministère des anges. Rappelez-vous, à l'heure de la tentation, dans le désert, après son baptême au Jourdain, à Gethsémané, alors qu'il est en agonie déjà, un ange vient le fortifier. Puis au matin de la résurrection, ce sont les anges qui sont chargés de mission, qui entrent en action pour annoncer que Jésus est vivant. Les anges. Puis il semble qu'ils sont chargés, lors du décès des justifiés, d'amener les personnes décédées dans la présence de Dieu dans le sein d'Abraham, puisqu'ils portèrent Lazare dans le sein d'Abraham. Luc, chapitre 16. Intéressant. Et puis ce sont les anges qui vont rassembler les élus lors de l'avènement du Fils de Dieu. Ce sera d'une extrémité de la terre à l'autre, au son de la dernière trompette d'un archange, nous dit le texte. Ce sont les anges qui vont faire le balai ou rassembler tout le monde. Alors, durant des siècles, l'Église chrétienne a tellement cru au ministère des anges qu'elle les a adorés, elle en a fait un culte, elle leur a rendu un culte, contrairement à l'enseignement de la Bible. Mais, entre cette erreur-là et notre incrédulité un peu cartésienne, n'y aurait-il pas une réalité que nous ignorons souvent ? Les anges existent. Mais oui. Bon, on en parle à Noël, puisqu'on chante « Les anges dans nos campagnes », n'est-ce pas ? Alors, je me dis parfois qu'on veut bien les voir dans nos campagnes et sur nos montagnes, mais on ne les imagine pas vraiment dans nos vies, les anges. Et pourtant, je vais vous surprendre. Par contre, et là, je me pose parfois de sérieuses questions, dans certains de nos milieux, on semble plus croire aux démons qu'aux services bénéfiques des anges. On parle énormément des démons, mais quasiment jamais des anges. Vous avez entendu beaucoup de prédications sur les anges ? Ils sentent que ce sont les démons qui travaillent et puis que... et c'est vrai qu'ils ne s'en privent pas, on est d'accord. Et puis les anges, eux, ben, ils sont au chômage. Je pense que cette hypertrophie d'un côté est fautive, parce que à force d'évoquer les démons, on finit par les attirer, j'ai bien l'impression. Et j'ai toujours pensé qu'il était plus salutaire de décrire la lumière que de dénoncer les ténèbres, d'annoncer la lumière de Dieu que de constamment dénoncer l'œuvre des ténèbres. Je suis moi-même un partisan de la libération au nom de Jésus et de la délivrance. J'ai eu une fois dans mon bureau quelqu'un qui à l'invocation du nom de Jésus sur sa vie, a été précipité à terre et rampait en sifflant comme un serpent, puis le démon est sorti. Ça existe. Je me souviens que dans un camp, une jeune fille a été saisie. Le démon s'est manifesté en elle, mais elle fut délivrée en proclamant la victoire du nom de Jésus et en chantant des chants d'adoration. À ce moment-là, le démon est parti en poussant un grand cri. Donc ça existe, j'y crois. Mais je crois qu'on en parle trop. Revenons aux anges, parce que c'est eux qui sont le centre de cette première partie. Je suis certain que vous avez déjà bénéficié, même inconsciemment, du ministère des anges, qui sont toujours en éveil. Moi-même, à quelques circonstances dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir été à plusieurs reprises au bénéfice de ce ministère exceptionnel, et ceci malgré moi. J'aimerais vous raconter deux récits que je tiens de personnes avec qui j'étais proche. Donc, je les tiens de première main de personnes qui sont dignes de foi et on peut même les contrôler. Tout d'abord, qui est-ce qui parmi nous ont connu le couple André et Josette Brisset, pasteurs? Entre autres, oui, exactement. Et puis Angelo, les plus anciens doivent s'en souvenir, ils sont maintenant décédés, mais le pasteur Brisset qui a fondé l'Alliance missionnaire internationale qui a été reprise par son gendre, le pasteur Jean Zida, m'a raconté à l'époque cette histoire stupéfiante. À l'époque des fêtes, ils étaient basés à Paris, missionnaires, vivant par la foi et vivant dans une grande disette. À plusieurs reprises, ils ont eu la conviction que des anges venaient à leur secours quand ils découvraient devant leur porte au matin des paniers garnis, remplis de victuailles. Mais l'événement le plus marquant et spectaculaire a eu lieu lors d'une nuit d'hiver où un manteau de neige fraîche venait de recouvrir la capitale. Et ce soir-là, ils étaient en prière pour qu'une manne financière providentielle leur soit accordée. Tout d'un coup, on frappe à leur porte. On ouvre, un homme en manteau est là. Il leur dit « Bonsoir, monsieur, dame. Prenez cette enveloppe, je suis chargé de vous la remettre. » Après les civilités, on ferme la porte, on ouvre l'enveloppe, une liasse de billets de banque. On se précipite à la fenêtre pour interpeller la personne qui va sortir du petit immeuble, dont on connaît tous les occupants, mais personne ne sort. On se précipite dans la cage d'escalier, on explore jusqu'à la cave, personne. Et le plus stupéfiant, c'est que devant la porte d'entrée, aucune trace de pas dans la neige fraîche. Et dans la cage d'escalier, aucune trace de pas mouillés, venant de chaussures ayant fouler la neige. Pour eux, ils sont convaincus, c'était la visite d'un ange. Moi, j'ai bien envie de croire ça aussi. Et je peux vous dire, les Brisset, ce n'étaient pas des allumés de première. Hein? C'était des gens posés, des serviteurs de Dieu magnifiques. Voilà, première chose. L'autre récit m'a été raconté par Peter Dippel, un pasteur allemand, qui, quand j'habitais en Allemagne, était mon pasteur de jeunesse. Puis plus tard, on s'est retrouvés au Continental Theological Seminary. Nous avons fait nos études de théologie à Bruxelles. Et il me racontait qu'un soir, rentrant d'une réunion en Bavière, il était de Munich, hein, il est toujours de l'Est. Non, maintenant il est à Berlin. Fatigué par une journée harassante et en pilotage automatique, vous imaginez bien, sa voiture gravissait gentiment une colline au sommet de laquelle un pont surplombait le lit d'un torrent descendant d'une montagne. Et arrivant à vive allure vers ce pont, il s'est trouvé nez à nez avec un autre véhicule. Le choc était inévitable à l'allure où les deux véhicules allaient. Il a hurlé le nom de Jésus, puis est tombé dans l'inconscience pour se réveiller quelques secondes plus tard, sa voiture parquée sur le bas-côté, intacte. Il sort tremblant et sur le pont un être de lumière. Et encore, Peter n'est pas un spécial, hein? C'est pas quelqu'un qui a des hallucinations. Peter, c'est un docteur en théologie qui est membre d'une faculté d'une université chrétienne importante aux États-Unis. Il fait partie du board. C'est un expert en grec ancien. Peter n'est pas quelqu'un qu'on pourrait soupçonner d'illuminisme, disons, voilà. Ça vous donne la chair de poule, hein, ça? Quand même, hein? Alors, je pourrais citer encore la sœur Bourquin. Je dis la sœur Bourquin parce que quand j'étais pasteur stagiaire à Genève, tout le monde s'appelait mon frère, ma sœur. Comment ça va, sœur? Mais oui, merci, frère. Alors, c'est clair que la sœur Bourquin, je ne connaissais pas sa mère, mais c'était ma sœur. C'est comme ça. Mais Madame Bourquin, qui sortait des milieux plutôt traditionnels d'arbistes, Frère Bussy, il y avait deux anges, un à droite et un à gauche de la scène ce matin. Je dis, oh, mais je ne les ai pas vus. Elle les avait vus. Il lui avait été donné la grâce de les voir. Et encore, Madame Bourquin n'était pas quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un de bien équilibré, fondé dans la parole de Dieu, etc. Comme le sont tous les ex-arbistes du reste. Et je pourrais encore donner deux exemples, mais on va s'arrêter là pour les exemples. Alors la lumière d'espérance dont je parlais au tout début, la voici. Les anges présents dans l'Apocalypse seront au service de leur maître en notre faveur jusqu'au jour de l'avènement du Messie. Ils seront là pour servir le maître en notre faveur. Jusqu'au bout. Et pour voir un point lumineux, rien ne vaut la nuit, n'est-ce pas? Et la nuit vient, en fait, elle tombe déjà. Et nous avons vu que dans ce texte de l'Apocalypse, dans cette nuit-là, sort un cavalier, celui de la pénurie, qui tient une balance dans sa main. Pourquoi? Pour mesurer les céréales essentielles et évaluer leur prix. Alors, il faut comprendre que dans ce texte, les prix indiqués, c'est 12 fois la valeur normale de ce qui se pratiquait à l'époque de la rédaction de l'Apocalypse. Mais vous avez vu, ou vous avez entendu plutôt, il est écrit « mais » ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Alors que la prophétie annonce une disette mondiale, cela ne devrait pas nous surprendre. Dans nos pays occidentaux, ça nous paraît peu probable. Nous avons en surabondance et nous gaspillons allègrement nos biens et nos ressources dans une fuite en avant qui précède, à mon avis, un désastre logique. Car quand on gaspille, on ne s'en rend pas compte, on s'appauvrit. Et par quel phénomène? J'entendais cette semaine un spécialiste du climat s'exprimant sur les ondes de la RTS et qui expliquait qu'un réchauffement climatique d'un degré était préoccupant. Un réchauffement climatique d'1,5 degré était une limite à ne franchir en aucun cas. Et qu'à 2 degrés ou plus, ce qui est prévisible, semble-t-il, la planète ne pourra pas rattraper la catastrophe. Hier, un commentateur avisé sur la même radio constatait que la chose actuellement déjà n'est pas réversible avant plusieurs siècles. Et à ce stade, on prévoit la mort d'une quantité d'espèces sous-marines et terrestres, la désertification de régions entières, et surtout, et ce furent ces mots, une mise en danger de l'espèce humaine par manque de ressources essentielles, en commençant par la nourriture. Et c'est une citation. Mais ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de l'huile de vos salades, ou de celle que vous racontez, ni du vin qui réjouit le cœur de l'homme, et celui de la femme si on lui en donne. Ça, c'est une citation de mon père. Il ajoutait toujours ça au verset, voilà. Le langage de l'Apocalypse est essentiellement symbolique et il faut savoir le décoder. L'huile, c'est le symbole biblique de plusieurs choses. Elle typifie la guérison, l'adoucissement, la consolation, le consolateur. L'Esprit Saint, dont le ministère sera toujours avec nous. Vous entendez ? Le vin, symbole de réconfort et de joie, utilisé aussi pour désinfecter les plaies. Hein? Le vin qui en hébreu, vous savez que les lettres en hébreu ont des valeurs de chiffres, hein? Et quand on les additionne, quand on additionne le mot vin, on trouve le même nombre que le mot roi. Et ding. Le vin, celui qu'on va élever à la scène tout à l'heure, c'est la vie purificatrice, la vie répandue du roi sauveur. C'est sa grâce qui réjouit et la certitude exaltante de son règne qui vient. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Ne touche pas au vin. Encore juste mentionner la parabole du bon samaritain. Vous vous souvenez ce que le samaritain a fait pour l'homme blessé au bord du chemin ? L'huile, le vin. L'huile et le vin ne pourront être touchés. C'est l'assurance pour nous que le secours divin sera toujours présent, quelles que soient les circonstances que nous traversons ou traverserons. Le Saint-Esprit sera toujours à tes côtés. L'œuvre de Jésus le roi sera toujours pour toi un bénéfice, un viatique. C'est l'assurance qu'il sera toujours là. Jamais nous ne manquerons d'huile, ni de vin, ni de force consolatrice, ni de bienheureuse certitude du salut et du règne qui viennent. Alors, quel rapport avec le ministère des anges ? Parce que je vous donne peut-être l'impression de sauter du coq à l'âne, passant par la grenouille. Non. Je vous ai donné deux exemples, ou trois même, d'interventions miraculeuses, dont deux en situation d'urgence. Vous vous souvenez ? Ce sont les anges qui, au service du Maître, sont les exécuteurs de sa volonté à votre égard. Nous ne connaissons pas les circonstances auxquelles nous devrons faire face dans le futur. C'est vrai qu'il y a une petite angoisse à avoir des enfants aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais cependant, où est notre confiance et notre espérance ? On demandait à Luther, qui plantait un pommier, si le Christ revenait demain, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui ? Sans relever la tête, il a dit, je planterais un pommier. Je ferais des enfants. Je vivrais en confiance. À la fenêtre du monde, qu'est Compassion Internationale, dont je reviens. Je constate que la nuit est déjà tombée pour d'innombrables frères et sœurs. Dans certains pays, leur foi et leur fidélité, parce que c'est le même mot, hein, c'est synonyme de souffrance et persécution. Après consulter sa pendouille dans le hall d'entrée, tout ce qui est coloré, c'est où c'est difficile d'être un disciple. Plus c'est foncé et plus c'est impossible humainement. Et pourtant, il y en a partout, en secret même, qui ont des révélations de Issa, Jésus, sur leur tapis de prière par des anges qui leur indiquent de lire le Nouveau Testament. Mais je peux vous dire que ceux qui sont victimes de ces persécutions et de ces outrages ont une foi, mes amis, à faire pâlir d'envie, et une persévérance et une détermination à aller jusqu'au bout pour Christ, parce qu'ils savent qu'ils ont mis leur espoir en un homme crucifié qui s'est donné pour eux. C'est étonnant que dans des situations comme cela, leur foi soit la plus vigoureuse, leur courage le plus entreprenant. Je me souviens quand nous avons visité Compassion en Indonésie avec Claudine, sur l'île de Sulawesi, bien, on nous expliquait que les églises ont en tout cas 4 à 5 portes par lesquelles les gens, à la fin du culte, se dépêchent de sortir pour éviter les pierres qu'on leur jette. Mais la responsable du programme de compassion sur l'île de Sulawesi nous disait: mais le Seigneur nous a mis à cœur, nous a montré d'aller dans cette petite île là-bas où il n'y a que des musulmans et il n'y a aucun chrétien, et nous a demandé le Seigneur d'aller prêcher l'évangile et de faire des disciples. Alors on va y aller. Les pierres quand on sort du culte. En parenthèse, je ne crois pas que ce sont des pierres qui ont cassé la vitre à l'entrée. Hein. Elles manquaient ce matin. C'est peut-être autre chose. Mais, et nous? Oh, je n'ai pas envie d'aller au culte. Je me suis fait un peu tard à la télé hier. Oh, puis je ne me sens pas. Ouais, le Seigneur m'aime quand même, de toute façon. Il ne faut pas être légaliste quand même. C'est pas parce que je vais au culte que je suis un meilleur chrétien, non. Non, mais je caricature. Je me moque même de moi-même, frères et sœurs. Parfois dans mes réticences de service et de consécration et mes excuses. Je parle pour moi. Quelle claque je reçois quand j'entends des choses comme ça en Indonésie. Ou bien en Inde où les 148 000 enfants que nous avons perdus en parrainage, maintenant, 67% d'entre eux continuent à recevoir le ministère de compassion sans l'aide de compassion, parce que les églises ont trouvé le moyen de continuer avec des bouts de ficelle, mais de continuer quand même, avec force et persévérance, malgré tout, malgré l'opposition, malgré les églises qu'on leur détruit, malgré les pasteurs que l'on tue ou je ne sais quoi. Puis vous pouvez ajouter tous ces pays-là. Ah, je vous l'enlève. Vous allez voir rouge. Alors, frères et sœurs, attachons-nous à l'essentiel. L'huile, le vin, l'Esprit Saint en nos vies, la présence de Jésus dans nos cœurs. Parce que ces deux choses, l'huile, le vin, c'est ce qui nous fera tenir jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Accueillons le Saint-Esprit au quotidien. Et puis, remercions le Seigneur pour les anges. Priez pas votre ange. Ça, c'est du mysticisme d'un autre bord. Priez Jésus et remerciez-le pour le ministère des anges en votre faveur. Parce que Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. » Jean 4, verset 18. Et puis c'est ça, cette lumière que j'aimerais qui brille dans vos cœurs et qui vous porte, vous transporte et vous amène jusqu'au seuil de la vie éternelle, là où aucune larme et aucune douleur ne seront plus à vivre. J'ai trois exemplaires de ce livre de John Bevere. La force dont vous avez besoin pour ne jamais abandonner, inébranlable. Si jamais vous avez un peu de mou dans votre vie, vous êtes un petit peu... Et votre foi, voilà. Nourrissez-la. Fortifiez-la. Il y en a trois seulement. Trois premiers seront desservis. Prions.